Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir à vous tous qui êtes fidèles à la VOA. Bienvenue dans À votre avis, votre émission interactive. Devant ce micro, Nanit Talani, depuis le studio 9 de la VOA à Washington. À la technique, Joe Gill, à la réalisation, Michel Joseph. Aujourd'hui, nous parlons de la crise d'eau en Afrique. Le 9e forum mondial de l'eau s'est ouvert ce lundi au Sénégal, près de Dakar, pour sonner l'alerte sur la raréfaction des ressources hydriques dans le monde et en particulier en Afrique. Le président sénégalais Macky Sall, qui a ouvert les travaux, a rappelé que 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare. Tout laisse à croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis et pour l'ONU, l'accès aux ressources en eau souterraine se heurte à un problème d'expertise, en particulier dans les pays d'Afrique subsaharienne qui nécessitent un accompagnement. Et plusieurs localités en Afrique sont privées d'eau potable. Pourquoi l'eau manque-t-elle? Comment vivez-vous cette crise d'eau plutôt chez vous? Quelles alternatives avez-vous pour vous procurer de l'eau? Vous êtes nombreux à avoir réagi sur la page Facebook de VO Afrique. Sinon, vous pouvez toujours participer à l'émission en appelant le plus 1-202-205-2633, plus 1-202-205-2633. Docteur Demono est le premier intervenant pour aujourd'hui. Bonsoir, docteur.
Bonsoir, les auditeurs de la VOA.
Comment allez-vous?
Merci, je vais très bien, madame.
Donc, vous soutenez qu'au Tchad, des solutions sont en train d'être trouvées pour le manque d'eau. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, vraiment, je pense qu'on peut parler de solutions. Ce qui est fait ici au Tchad, particulièrement, je crois que l'exemple le plus patent et le plus palpable, c'est la construction des forages. Alors, un forage d'eau, c'est un peu comme un puits, parce qu'avant, les gens utilisaient des puits. Alors, maintenant, le forage, il est recouvert d'une pompe qui est activée manuellement. Et sans dépenser de l'énergie, vous pouvez faire sortir de l'eau de la nappe phréatique. Et cette eau est potable et consommable immédiatement. Alors, beaucoup de villas, de constructions, d'habitats ont chacun un forage. Ce qui fait que dans un quartier, si par exemple vous êtes locataire, vous n'avez pas un forage dans votre conception, vous avez la possibilité de vous servir chez les voisins. Et j'ai trouvé que franchement, c'est beaucoup mieux par rapport à avant quand il y avait des puits. Ça les était un puits dans le puits, le remonter, ça demandait beaucoup d'efforts.
Alors vous dites que c'est à N'Djamena que toutes les maisons ont presque chacune un forage. Quelle est la situation dans les campagnes ou dans les villages?
Mais justement, dans les campagnes et les villages, également, ça se fait parce que le gouvernement est en train de construire des forages. Alors, vous pouvez arriver dans un village de 500 habitants. Au centre du village, on construit un forage. Et donc, tous les habitants viennent s'approvisionner en eau. Et justement, c'est pourquoi je dis que c'est l'exemple le plus patent. Mais en dehors du forage, il y a également d'autres solutions que les Tchadiens sont en train d'adopter, par exemple le reboisement, la construction rétention, des bassins de rétention d'eau, voilà d'autres exemples également.
Ok, et quel est le conseil que vous donnez à d'autres pays qui n'ont pas encore pris des mesures comme celles que vous venez de citer?
Honnêtement, moi, je pense que le problème de l'eau, c'est une solution globale. Et actuellement, on parle du sommet international de l'eau. Mais moi, si j'étais là-bas, je ferais la proposition d'approcher le problème en groupe. Ça veut dire que, en Tchad, on dit que le cycle de l'eau, c'est-à-dire que l'eau de la pluie va tomber, ensuite ça va entrer dans la mer phréatique, on va consommer, et cette eau deviendra également de l'eau de la pluie. Alors la solution, c'est que si les pays du Sahara, par exemple, moi je suis au Tchad, je conseillerais de planter des arbres. Et je pense encore à ce qu'on avait évoqué une fois en Afrique, c'était la muraille verte. Et il faut reboiser le Sahara pour éviter le réchauffement climatique, éviter la perte d'eau sous forme de chaleur.
Merci beaucoup, docteur. Bonne soirée, à N'Djamena au Tchad. Alors, selon sa pensée à lui, il faut donc planter des arbres. Charles Bazema pense plutôt qu'il faut organiser qu'il faut plutôt une vision et une volonté politique. Bonsoir Charles.
Oui, bonsoir la VOA et bonsoir à tous les auditeurs.
Alors vous pensez qu'il faut plutôt une volonté politique pour arriver au bout de ce problème de manque d'eau en Afrique?
Oui, bien sûr madame, bien sûr. Si vous regardez, l'Afrique a de la mer, l'Afrique a des fleuves, l'Afrique a des mines. Mais pourquoi il y a manque d'eau? C'est-à-dire que voilà, ceux qui sont censés voilà, prendre la chose au sérieux ne font pas le travail. Et surtout, la population ne sont pas. La population n'est pas, accompagnée dans la DPK qu'elle fait. Par exemple, si vous prenez. Par exemple, moi, je vais parler un peu de mon village, de ce qui s'est passé là-bas pendant la saison pluvieuse. Et la population essaie de creuser. Si on doit parler d'un trou, je ne sais pas, sous forme de fourrage, quoi, il faut sous forme de, on dirait barrage, voilà, disons comme ça, sous forme de barrage, pour empêcher l'eau de, voilà, de partir. Maintenant, d'ici, pendant la saison sèche, puisque là-bas, vers là-bas, on pratique le jardinage. Maintenant, pendant la saison sèche, là, actuellement, maintenant, ils creusent des puits. Maintenant, le fait qu'ils ont empêché l'eau de couler, voilà, maintenant, l'eau est à côté. Imaginez si nos politiciens ou bien nos dirigeants venaient voir ces gens-là, maintenant, les accompagner en présent des barrages. Ici, si on n'allait pas avoir beaucoup, on n'allait pas avoir de problème d'eau. Voilà, ils ont mis les fourrages, ils ont mis des châteaux d'eau. Mais malgré tout ça, il n'y a pas d'eau. Venez à Ouaga ici, vous allez voir. Vous allez voir comment les gens souffrent. Pour avoir l'eau actuellement, mais quand je vous parle là, moi, je suis dans une zone qu'on appelle, c'est un peu écarté de la ville. Voilà, on aime appeler vigueurement les quartiers non lotis. C'est-à-dire que les quartiers, c'est des bidonvilles.
C'est voilà, au Burkina?
Qui ne sont pas délimités. Oui, au Burkina.
Voilà. À Ouagadougou, j'allais dire.
Oui, bien sûr, à Ouagadougou, qu'on appelle des quartiers non lotis. C'est-à-dire des quartiers non développés. Et voilà, c'est pas viabilisé, on doit dire ça. Voilà, on doit se lever à 5 heures, voilà, voire même 4 heures pour aller au robinet, pour attendre de l'eau. Il n'y a même pas l'eau. On devait même sec. On devait même pas parler de ces gens de trucs-là.
Ok, Charles, on comprend que c'est pénible, mais quelle est la solution pour tout ça?
Oui, la solution, comme eux, ils sont en manque de vision, il suffit seulement d'approcher la population. Nous avons les solutions. C'est-à-dire, il suffit seulement de creuser. Voilà, pendant la saison pluvieuse, voilà, le Burkina doit avoir beaucoup de barrages. Nous devons avoir des barrages pour empêcher l'eau de couler. Parce que quand il pleut, il y a des inondations. Toute l'eau là, ça va où? Regardons le fleuve Moun. Voilà, notre fleuve là, le plus grand fleuve du Burkina. Pourtant actuellement, c'est tari. C'est tari. Pourquoi on ne pouvait pas faire quelque chose pour empêcher l'eau de couler? Essayer de creuser le fleuve. Voilà, on a trois fleuves, il y a le Nakabe et la Komeu. Pourquoi ne pas creuser ça voilà, pour empêcher l'eau de couler? Voilà, tant que l'eau ne coule pas, il y a de l'eau. Et maintenant, on peut profiter là-bas. Voilà, faire des fourrages, voilà, pour donner dans les villages. Mais les fleuves sont taris. Il n'y a même pas assez de barrages. Les barrages qui sont là même n'arrivent même pas à produire. Voilà, avec ça, comment vous voulez que l'Afrique s'en sorte? Parce qu'ils ont raison. Excusez-moi de sortir un peu de. Ils ont raison. Quand ils tombent malades, c'est en Europe. Quand ils veulent manger, c'est en Europe. Voilà, quand ils veulent faire les vacances, c'est en Europe. Mais c'est pendant les campagnes qu'on les voit auprès de la population. Mais après, une fois élus, ils sont pris aux côtés de la population pour voir la réalité.
Merci Charles. Merci Charles. C'est bien triste tout ça, mais la situation n'est pas meilleure au Mali, d'après selon ce qu'a écrit Oumar Di Ernesto sur notre site Facebook. Bonsoir Oumar.
Bonsoir madame.
Alors vous soutenez que la population malienne, une grande partie de la population au Mali, n'a pas accès à une eau saine.
Oui, tout à fait. L'eau étant une source de vie, bon, au Mali, la grande partie de la population n'ont pas bon, de l'eau saine. Même ici à Bamako, bon, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau, tout à fait. surtout dans les villages reculés, bon, comme au centre, je peux dire même mon village, bon, vraiment, il n'y a pas d'eau. Les femmes vont parcourir à des milliers de kilomètres pour avoir d'eau. Bon, vraiment, le gouvernement a fait beaucoup de choses quand même, bon, pour avoir d'eau, en créant des châteaux, mais toujours, il reste beaucoup à faire. Comme dans les régions du Nord aussi, bon, vraiment, les gens n'ont pas assez d'eau suffisamment pour parvenir à l'air des jeunes.
Alors, Oumar, quelles sont les conséquences de cette absence d'eau?
Bon, les conséquences, en un mot, on peut dire, les 80% des maladies sont dues à l'absence de l'eau. Allô?
Oh, allô, je vous écoute.
Voilà, bon, les 80% même des maladies dues même à l'absence d'eau, parce que vous savez, bon, s'il y a manque d'eau, parce que la population ne cherche même pas que l'eau soit propre, l'eau soit saine ou que l'eau soit propre. Parce que cela, il suffit seulement d'avoir un peu d'eau pour subvenir à l'aide des hommes. Même si c'est, même les eaux salées, bon, ils vont aller piger d'eau. Ils ne savent même pas si c'est propre. Bon, ça veut dire sans contrôle.
Alors, quelles pourraient être les solutions pour cette crise d'eau au Mali?
Oui, allô?
Allô, que devraient faire les autorités pour donner de l'eau à la population, de l'eau saine?
Allô?
Allô, Oumar? Bon, je crois que nous l'avons perdu et nous retenons du Mali que la situation est un peu aussi chaotique que dans plusieurs pays africains, notamment au Burkina avec Charles Bazema, il l'a bien expliqué. Nous allons demander ce qu'il en est en Côte d'Ivoire avec Yao Marcelin. Bonsoir Yao.
Bonsoir madame, bonsoir à tous.
Donc, quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Avez-vous assez d'eau ou pas?
Bon, contrairement à la sous-région, la Côte d'Ivoire est bien au-dessus. La Côte d'Ivoire s'en sort nettement mieux par rapport aux autres pays, aux pays voisins tels que le Mali et le Burkina. Ici, nous avons de l'eau. En fait, le problème, c'est que la population n'arrive pas à accéder à cette eau-là, à cette eau potable. Par exemple, l'abonnement à la sous-région. La sous-région, c'est la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire. Mais il y a un abonnement, on nous demande près de 250 $. Ce n'est pas la portée de tout le monde. Nous connaissons un peu le train de vie de la population africaine. Ça ne va pas. On demande de 250 000 francs pour un abonnement. Mais les populations n'auront pas cet argent-là. C'est pas le problème. On fait des tarifs promotionnels. Hein? On nous dit, bon, après, il y a des promos de 5 périodes, juste une promo de 2 mois ou de 4 mois. Mais bon, je pense qu'en lieu et place de la promo, il faut plutôt rendre le coût accessible à tous. 150 000 francs, c'est pas la portée de tout le monde. Il y a de l'eau, on a des pieds volontaires partout en Côte d'Ivoire, il y a de l'eau. La Côte d'Ivoire est suffisamment irriguée.
Ok, mais s'il y a de l'eau et qu'elle n'est pas accessible à la population, est-ce qu'il n'y a pas un problème?
Justement, il y a un problème, madame. Moi, je prends du droit le gouvernement, hein, parce que c'est une politique. C'est la politique en matière d'eau n'est pas suffisamment exploitée en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de propagande, on nous fait des sortes de publicités, mais en réalité, les réalités sont là. Vous allez dans les zones rurales, le constat amer. Hein, on peut dire que ça va en Côte d'Ivoire, ça va, mais les réalités sont là. Nous vivons au quotidien, les réalités sont là. Moi, quand je vais au village, je n'arrive pas à avoir de l'eau potable, alors qu'on a la possibilité d'avoir les pompes villageoises. C'est appelé une politique de l'hydraulique villageoise. Installer un peu de pompes, hein, un peu pour alimenter un peu ces zones rurales. Je pense ça, mais on fait de la propagande. On fait que tout va bien en Côte d'Ivoire, mais en réalité, c'est pas ça. Hein. Les réalités sont là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Yao. Bonne soirée à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le constat est amer. Il a répété 2 fois. La situation n'est pas vraiment du tout bonne. Qu'en est-il à Kinshasa en RDC? Nous allons discuter avec Ruben. Bonsoir Ruben.
Bonsoir madame et bonsoir tout le monde.
Alors à vous en croire, il n'y a pas d'eau en permanence à Kinshasa. Pourquoi?
Et si vous lisez mon commentaire, vous allez comprendre là-dessus. C'est que quand les colons nous avaient laissé cette ville qui est la capitale de la RDC, il y avait quand même une bonne organisation. Mais avec les autorités que nous connaissons, si nous avions d'abord commencé à connaître jusqu'aujourd'hui, c'est un problème de la politique. La gestion de la République n'est pas tout à fait comme nous pouvions attendre. Puisqu'on a tous tendance que c'est à l'intérieur du pays qui rejoint de toute façon. Vous voyez tout à fait des choses qui n'ont pas mal la vie de toute façon. Et du coup, tout ce qui était organisation sur le plan de la politique de l'eau, de l'électricité, connaît un grand problème. Plutôt que nous avons un problème de l'eau, puisqu'il y a de nouvelles quartiers, de nouvelles cités qui se construisent. Et d'ailleurs, toutes ces constructions sont permises par l'État, mais le même État n'a pas cette volonté d'accompagner ce que lui autorise de pouvoir construire. Donc, il y a cette absence-là de pouvoir s'imposer comme État, de rendre la vie un peu praticable sur toutes les familles de la République. C'est ce qui fait qu'on a toutes les questions de croire que la bonne vie en République démocratique du Congo, elle se retrouve à Kinshasa. Du coup, nous quittons le milieu rural, c'est la zone de Kinshasa. C'est pour avoir des conséquences, tout ce service qui doit être attendu par la terre vis-à-vis de la population, doit connaître de jour en jour un peu de modification, puisque de jour en jour, il y a des gens qui s'agissent dans la ville de Kinshasa.
Alors, Ruben, puisqu'il y a un manque d'eau, comment font les populations à Kinshasa pour se procurer de l'eau? Comment vivent-elles de jour en jour?
Ah, vraiment, ça, c'est un problème qui nous caractérise. Hein. On est habitué avec ça, puisque ça date pas mal d'années aussi. Il y a certains coins qui bénéficient de l'eau potable, ils ont accès de l'eau potable, mais je vous dis, dans les coins reculés, c'est compliqué. J'ai même quelques expériences. Les enfants qui sont dans les quartiers reculés, ils sont habitués de prendre de l'eau, qui sont d'ailleurs pas traitée, de l'eau de source. Comme ça jaillit naturellement comme ça, ils prennent ça. Et nous avons fait comme ça, lorsque ces enfants quittent ces lieux de quartiers reculés de Kinshasa, pour rejoindre en tout cas la ville avec. Avec cette initiation de la vie, et lorsqu'ils se retrouvent dans des milieux considérés comme des milieux de classe noble avec cette eau, vous constatez que quand les enfants prennent cette eau-là de milieu urbain, ils sont malades parce qu'ils ne sont pas habitués avec ça. L'organisme est habitué avec l'eau de la source qui nécessairement n'est pas traitée. Et du coup, quand vous leur apportez de l'eau, et traiter de l'eau potable, ils sont malades. Vous voyez, c'est très bien.
Quelles sont les mesures qu'on peut mettre en œuvre pour avoir de l'eau à Kinshasa et dans d'autres villes aussi de la RDC?
Je pense que c'est une politique qui doit s'organiser pas seulement pour Kinshasa. Donc, ça doit être une vision qui doit profiter de la République démocratique du Congo. Aussi le temps que nous aimons la capitale du Kinshasa, nous devons aussi aimer d'autres villes à l'intérieur du pays. Nous devons aussi aimer d'autres provinces en dehors de Kinshasa. Donc, effectivement et pratiquement, l'État doit s'imposer, doit se porter garant de ce qu'on rendra ce service parce qu'il lui semble comme obligation. Donc, c'est un peu ça. Il doit aménager les canaux d'eau. Il doit servir ceux qui ont. Il doit aménager les conditions de l'eau, les conditions d'accès à l'eau pour ceux qui sont dans les quartiers reculés, notamment de la ville de Kinshasa. Je peux parler que de la ville de Kinshasa parce que c'est aussi la ville de Kinshasa.
Merci beaucoup Ruben, bonne soirée à Kinshasa. Nous restons dans la capitale congolaise où nous attend Alphonse Mbouaki. Bonsoir Alphonse.
Bonsoir madame.
Alors vous avez épinglé plusieurs conséquences du manque d'eau en général.
Je madame, le réchauffement climatique qui est à la base de beaucoup de choses, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ce dérèglement climatique. Notamment ici en Afrique, il y a la déforestation. La déforestation provoque l'avancée du désert, provoque la sécheresse. Si bien qu'il y a des cours d'eau qui s'assèchent, pour limiter à cela, au manque d'eau, je pense qu'il faut investir dans les forêts. Ici, en Afrique, nous avons le même problème. Pas que nous avons beaucoup de cours d'eau, mais nous avons des problèmes d'eau. Ce n'est pas de servir partout. Alors moi, je pense qu'il faut investir dans les forêts, creuser les sols, et les États doivent accompagner ceux qui creusent, les sociétés qui viendront creuser les sols pour soutirer du sol de l'eau. Mais ce sol-là est allé. Il faut des experts de tout pour pouvoir purifier cet eau-là. Non seulement investir dans les forêts, mais également dans les infrastructures d'eau. Nous avons beaucoup de cours de mines ici à Aide Congo. Il faut installer des endroits pour retenir de l'eau, pour capter de l'eau et les purifier et les redistribuer dans les cités, dans les quartiers. Mais dans les coins reculés, là on ne peut pas aller, il faut le système de forage. Mais également, il faut privatiser ce secteur. Parce qu'il n'y a que ici, en Aide Congo par exemple, il y a une petite société, la Régie des Eaux, qui s'occupe de la distribution de l'eau. Elle n'attend pas. Elle n'arrive pas à desservir toute la population à travers le monde.
Et vous pensez, Alphonse Mbouaki, vous pensez que la privatisation de la société d'eau serait meilleure?
Non, mais parce que ça va créer la concurrence, non? Parce que quand il y a la concurrence, chacun va de son côté chercher à améliorer la qualité de l'eau. L'eau qu'elle donne à la population n'est pas vraiment plus potable. Alors quand il y a la concurrence, je pense que chacun va se porter à supporter l'autre dans la qualité des services.
Alors Alphonse,
vous savez également, pardon?
Merci beaucoup. Alphonse, combien de temps passez-vous personnellement parfois sans eau?
Comme maintenant, ça fait que je travaille dans un centre hospitalier. Il n'y a pas, on passe beaucoup de temps à eau. L'électricité pose problème, ces derniers temps. Nous aussi, ça ne coule pas au robinet. Vous savez que dans un hôpital, il y a beaucoup de services qui demandent de l'eau. Mais je vous assure qu'on manque d'eau, il faut nettoyer les toilettes, il faut beaucoup de choses dans un hôpital. Donc, nous manquons de l'eau maintenant là. C'est pire que antérieurement, ces derniers temps, c'est terrible. Alors qu'on a les fleuves, on a des rivières partout. Alors, on ne sait pas pourquoi ce problème, à cause des infrastructures, manque d'infrastructures, il faut qu'il y ait la volonté politique de la part des autorités pour pouvoir investir et pour pouvoir investir dans ce domaine, comme en électricité. Il faut aussi ces infrastructures demandent des moyens. On a besoin aussi de financement. Le financement, comme je le disais hier pour l'électricité, quand il y a des gens qui nous soutiennent dans le financement, je pense qu'on va installer des infrastructures partout, ça va arriver même dans les coins les plus reculés, dans les villages. Je pense que ça va produire la qualité des services et la qualité de l'eau, Madame Manique.
Alors, Alphonse, nous allons terminer avec vous en 30 secondes. Vous avez aussi parlé des conséquences que vivent les populations par manque d'eau.
Les conséquences, c'est parce qu'on prend l'eau qui n'est pas de bonne qualité. Vous savez, ça provoque des maladies diarrhéiques, comme le choléra, comme des vers intestinaux. Les gens meurent de ces maladies-là, parce que l'eau n'est pas qualitative, l'eau n'est pas propre. Donc, c'est un domaine dans lequel l'eau, l'électricité, l'eau qui est une formation résidente, avoir des projets sur dans ce domaine-là, pour pouvoir donner des solutions de base, des solutions
Alors, nous sommes dans le regret de vous laisser partir, Alphonse Bouaki, mais c'est la fin de notre émission. Nous étions en train de parler de la crise d'eau ici, devant ce micro Nani Talani, à la technique Joe Gill, à la réalisation Michel Joseph. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.